L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Julien Mast, bonjour.
Bonjour.
Tu es cofondateur et délégué national de l'association E-Graine ou I-Graine, comment on dit ?
I-Graine, du coup c'est un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle I-Graine.
Donc le E prononcé à l'anglaise, tu m'expliqueras pourquoi ou tu peux peut-être nous expliquer tout de suite pourquoi ?
I-Graine on a été créé en 2006 et du coup à l'époque on parlait d'email, de e-révolution et du coup le i de i-graine c'était pour mettre à l'époque le i symbolisait l'innovation et du coup c'était une graine d'innovation dans ce secteur d'activité là.
Alors votre maître mot c'est de cultiver l'envie d'agir pour un monde solidaire et responsable. Alors tout un programme, tu peux nous expliquer un petit peu ?
Oui, c'est effectivement tout un programme. Voilà, on pense qu'aujourd'hui, et depuis un bon paquet d'années, en fait, on a un vrai problème de société. En fait, il y a des problèmes d'inégalité qui sont très fortes. On a des problèmes environnementaux qui sont très forts. On a un problème de vivre ensemble qui tourne à la catastrophe si on regarde les derniers résultats. Et du coup, notre objectif, c'était de se dire comment on fait pour qu'en fait ces inégalités se réduisent, comment on fait pour que notre monde soit soutenable et comment on fait pour que toi et moi et tous ceux qui nous entourent, on crée un monde souhaitable et joyeux, faire un monde solidaire et responsable.
Du coup, vous êtes aujourd'hui 45 salariés répartis entre 6 structures. Il y a 5 associations régionales autonomes et une structure cœur de réseau national, donc au niveau français. Comment ça fonctionne votre association, vos associations ?
Du coup, on est un mouvement citoyen. C'est-à-dire que c'est très important pour nous que nous n'avons que des adhérents qui sont des individus, des citoyens qui pensent qu'eux aussi, pour créer un autre monde, il faut une autre éducation. Qu'il faut faire varier ce référentiel éducatif pour amener à ce que demain, on a un référentiel éducatif qui amène à l'épanouissement humain et collectif. Du coup, il y a beaucoup de gens qui... On espère qu'il y en aura plus demain, mais en tout cas qui pensent que l'éducation doit changer un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le travail des enseignants ou de ceux qui font l'éducation, mais juste que le monde a évolué et que nous devons essayer de chercher les nouveaux référentiels pour le faire. Et du coup, nous fédérons des citoyens qui pensent qu'eux aussi, il faut s'engager sur une nouvelle sorte d'éducation. Éducation que beaucoup essayent de faire, hein. L'innovation éducative, elle est partout, voilà, mais comment on peut essayer de faire ces référentiels ? Du coup, des citoyens se regroupent par région. Et ensuite, ils emploient des salariés pour essayer de mener des actions éducatives. Du coup, on a 5 associations sur les régions qui ont différents bureaux dans différentes villes. On parle de bassins de vie pour définir les transitions et nos lieux d'implantation. Et ensuite, on a une structure qui, en 2015, s'est créée en se disant « Attendez, c'est sympa, on crée sur les régions, mais on a tous les mêmes besoins. On a des besoins en communication, on a besoin en accompagnement et tout ça. » Et en fait, recréer dans son coin, c'est un peu dommage. On prône la coopération et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être exemplaire. Et du coup, on a essayé de créer une structure cœur de réseau qui avait pour objectif de faciliter la coopération et de faciliter le déploiement de ces structures régionales. Faire ensemble au lieu de faire chacun pour soi de son côté.
Chaque association régionale est autonome. J'imagine que ça a beaucoup d'importance pour vous.
Oui, c'est important. En fait, nous, notre finalité éducative, c'est de permettre à chacun d'être libre et de faire ses choix de façon autonome. Du coup, pour nous, ça paraît évident qu'en fait, les associations doivent toujours être libres de leur gouvernance, toujours être libres de leurs choix. Pour autant, comme un pays ou comme une société se fait, elle doit partager des valeurs, elle doit partager un objectif commun, elle doit partager une œuvre commune. Et du coup, elle se regroupe derrière une identité, une marque, une façon de faire, une identité, mais une identité qui est plurielle et une identité qui doit vivre différemment en fonction de son territoire, de ses problématiques territoriales. Aujourd'hui, on essaye de résumer les choses par la société, alors qu'en fait chaque territoire est différent, chaque personne est différente. Et du coup, nous, on pense que chaque être humain était différent et du coup, chacun a peut-être des solutions différentes. Et c'est pareil pour les organisations. Pour nous, on fait un parallèle entre l'humain et les organisations. C'est assez important pour nous que chacun puisse être libre de faire ses choix dans le respect des autres.
Alors vos choix, vous les appliquez donc dans cet objectif hein, de cultiver l'envie d'agir pour un monde solidaire et responsable. Donc c'est vraiment sur des questions de solidarité, d'écologie, d'entraide, d'ouverture à l'autre. Vous avez donc différents programmes que vous mettez en place. Est-ce que tu peux nous présenter quelques-unes de vos actions ? Alors je ne vais pas dire que vous faites des animations parce que ce n'est pas vraiment un terme qui vous plaît à I-Graine. Comment vous agissez sur le terrain en fait ?
Du coup, notre spécificité, c'est l'ingénierie pédagogique. Nous avons des personnes qui savent créer des dispositifs éducatifs. C'est pour ça que je ne parle pas d'animation, parce qu'en fait, souvent, quand on parle d'animation, on voit tout de suite loisirs, anniversaires, et ainsi de suite, ce qui est déjà une très belle chose de savoir animer. Mais en fait, nous, ce qu'on essaye de créer, c'est des dispositifs éducatifs. Et du coup, il y a une plus-value sur la pédagogie qui doit être assez importante. Et du coup, c'est hyper important parce que souvent, les éducateurs, en fait, sont dévalorisants en disant « Ah, bah, c'est facile, vous faites de l'enfantillage, de l'animation. » Non, non, créer de l'animation, créer des réponses sociétales grâce à l'éducation, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. C'est un métier qui devrait être plus valorisé. Du coup, c'est pour ça qu'on trouve que l'animation, en fait, emmène chez les gens tout de suite un peu « Bon, bah voilà, vous avez fait de la garderie, quoi. » Et déjà, la garderie, c'est déjà très compliqué, mais c'est souvent très dévalorisé. On sait que tous les métiers humains, aujourd'hui, sont dévalorisés au profit des métiers plus techniques ou en tout cas plus rentables financièrement. Et voilà, et nous, on dit non, non, en fait, le métier des hommes, celui qui est sur le terrain, est bien plus important que tous les autres. C'est celui qui crée le lien, c'est celui qui crée société. Et du coup, on parle de création de dispositifs éducatifs et d'animation de dispositifs éducatifs. On parle de création d'outils pédagogiques plurimédia. On parle de création de dispositifs de participation citoyenne. Et on parle aussi de création de formation professionnelle.
Tu peux nous donner des exemples sur le terrain? Par exemple, vous avez travaillé sur le zéro déchet.
Oui, alors on travaille énormément sur le déchet. On sait que le déchet, c'est une des problématiques sociétales importantes actuelles. Et du coup, nos actions, elles sont très diversifiées sur ce sujet-là. Mais on est toujours dans une volonté de prévention. Voilà. Du coup, on va de la prévention jusqu'à l'accompagnement au tri. Notre objectif est du coup de travailler effectivement énormément en amont. Du coup, on travaille dans les supermarchés. On accompagne les gens à essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils achètent dans les supermarchés. Du coup, c'est des endroits où on ne nous attend pas forcément faire de la sensibilisation à l'intérieur d'une grande surface. Face, ça paraît un peu étrange et pour tout c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là, avant l'acte d'achat, qu'on peut déjà réduire en grande partie le volume de déchets qu'on va avoir chez soi. Du coup, on commence par là et on va jusqu'à du porte-à-porte chez les gens où on voit avec eux comment ils font le tri chez eux, comment on peut les accompagner pour qu'ils comprennent les politiques de tri sur leur territoire, où est-ce que ça va. Et du coup, on a une démarche très très large avec une volonté toujours de parler de prévention en priorité, quoi.
Par exemple, dans un supermarché, concrètement, vous faites quoi ?
Concrètement, on commence en fait avec un stand à l'entrée. Stand classique où on est très ludique et justement on essaye d'attraper les enfants ou en tout cas de faire quelque chose de très ludique qui, voilà, vous savez que dans les supermarchés il y a énormément de choses dans les halls pour attirer les personnes et nous du coup on essaye de faire des choses très ludiques. Du coup on attire souvent les enfants grâce à ça et ensuite grâce à ce premier lien en fait on va essayer de faire une visite du supermarché avec les parents. Et du coup, on les accompagne dans leur acte de course, en fait, sur la réflexion à chaque fois qu'ils prennent quelque chose. Alors, on n'est pas moraliste du tout, on n'est pas là pour leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, pour les accompagner sur la compréhension des logos qu'il y a sur les étiquettes, sur pourquoi le vrac, ce serait plus important que d'acheter, attention sur emballage, enfin, toutes les petites choses que, quand on fait machinalement ces courses, on n'y pense pas. Et peut-être qu'avec quelqu'un qui nous accompagne, ça peut aider et faire des choix un peu différents.
Donc, ce qui est important pour vous, c'est pas forcément d'être présent sur des événements où vous allez trouver un public convaincu, mais c'est aussi d'aller chercher des publics justement très peu sensibilisés, très peu conscients de toutes ces questions de solidarité et d'écologie. Alors, comment vous faites pour aller les chercher ces gens en dehors d'aller les accompagner dans leurs courses au supermarché ?
En fait, c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Vous avez une population qui est sensible de fait et qui va être sensibilisée par les différents médias. Et puis il y a tous ceux qui n'y prêtent pas attention. Et c'est cela qui nous intéresse. En fait, si on veut atteindre une taille critique et qu'on veut faire changer une société, il faut aller chercher toute la société. Et du coup, notre rôle, c'est d'aller les chercher dans leurs usages quotidiens. Du coup, c'est de se demander, vous, qu'est-ce que vous faites demain ? Quel est votre parcours de votre journée et comment moi, je peux être là à un moment où vous n'y attendez pas forcément. Et du coup, on travaille énormément avec tous les acteurs qui font société sur les territoires, c'est-à-dire les centres sociaux, les bailleurs sociaux, tous ceux qui font la vie locale pour essayer que on soit là, un éducateur au coin de la rue qui peut vous accompagner à un moment avec un dispositif le plus surprenant possible pour que ça vous attire, quoi.
Alors, par exemple, avec un centre social, qu'est-ce que vous avez fait récemment ?
Oui, par exemple, là, en Nouvelle-Aquitaine, on vient de faire des animations avec des femmes éloignées de l'emploi et issues de l'immigration qui ont du mal à se, qui ont du mal à rentrer en connexion avec la vie bordelaise. Et du coup, on a travaillé avec elles sur les pollutions de l'air et sur les cuisines à reste. Du coup, c'était de se dire comment on peut monter des dispositifs avec ces femmes qui viennent d'autres cultures, qui n'ont pas forcément ces référentiels, et comment elles se retrouvent dans des villes qui sont plus ou moins polluées, et comment on peut les accompagner sur leur réflexion sur quand ton enfant est posé dans tel ou tel endroit, quel risque il est par rapport aux allergènes, par rapport à tout ça. Et du coup, de créer des dispositifs comme ça qui les accompagnent. Du coup, c'est forcément pas en une séance. Hein. Le dialogue doit se créer d'abord par un sentiment de confiance, et puis après, elles arrivent à se livrer petit à petit et à partager, et partager avec les pères, surtout parce que nous, notre rôle, c'est principalement de libérer la parole, hein, de mettre ces gens-là en confiance. On sait que c'est jamais évident quand on arrive dans un nouvel endroit d'être en confiance. Et du coup, nous, on est là pour essayer d'ouvrir le dialogue là-dessus. Et voilà, sur plusieurs séances, du coup, sur 4 séances, on accompagne les gens jusqu'à ce que ils fassent peut-être chez eux évoluer leur façon de faire pour qu'en fait, il y ait un peu moins de pollution dans l'appartement.
Donc c'est pour ça que le E de Ygren se prononce I comme innovation un petit peu. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment sur le terrain défricher finalement des nouvelles façons de communiquer sur tous ces enjeux de société et peut-être avec d'autres acteurs de l'éducation, du monde pédagogique, de l'éducation à l'environnement.
En fait, on ne peut pas vivre en reclus. On prône une société du vivre ensemble. Du coup, il faut forcément parler avec l'ensemble des acteurs. Du coup, on essaye d'être attentif que chacun de nos projets soit vraiment créé avec les acteurs d'un territoire et avec aussi les différents corps de métiers qui pourraient agir sur ces métiers-là. Du coup, par exemple, là, je vais vous parler d'un programme qu'on fait qui s'appelle Un univers citoyen, qui a pour objectif de lutter contre les préjugés sur les migrants. Du coup, on pense, si on passe migrant, on pense tout de suite aux associations qui travaillent sur le droit et ainsi de suite. Nous, on s'est dit, en fait, quel est le problème par rapport aux migrants? C'est une crise de l'accueil. On a du mal à les accepter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de préjugés sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent nous amener. Ça fait peur de l'inconnu et ainsi de suite. Du coup, on est clairement sur des préjugés. Et là, on s'est dit, tiens, c'est marrant. Il y a beaucoup de chercheurs en neurosciences qui travaillent sur les préjugés. Puisque les préjugés, elles se créent et elles se défont dans votre cerveau. Et du coup, en fait, c'est un réflexe naturel de votre cerveau de créer des préjugés. Parce que pendant la préhistoire, vous avez besoin de préjugés pour survivre. Aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de ce réflexe, mais c'est un réflexe naturel de notre cerveau. Et du coup, on va travailler avec des experts et avec des chercheurs, des labos de recherche en neurosciences sur ce sujet-là. Mais ça ne suffit pas. Du coup, on va aussi travailler avec des chercheurs qui sont sur la sociologie, la sociologie des migrations, mais aussi du vivre ensemble. Et on va aussi travailler avec tous les acteurs qui accueillent ces personnes-là, les structures d'accueil de primo-arrivants, les structures d'accompagnement au droit. Voilà. On essaie de travailler toujours avec un maximum de personnes pour avoir une représentation la plus complète possible de la problématique. Et surtout, notre objectif final, c'est qu'une fois qu'on a fait cette période de sensibilisation, c'est qu'on résout la problématique finale. Hein. Du coup, il est hyper important de travailler aussi avec des associations comme Médecins Sans Frontières ou MDM qui vont développer l'accueil à la sortie. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est que ces gens ne soient plus dans la rue. Quoi. Une fois qu'on a lutté contre nos préjugés, il faut les accueillir dignement et leur donner... une petite place dans notre organisation sociétale et que voilà, ça soit juste une personne de plus. On est 70 millions, du coup 70 millions plus 1, ça fait pas grand-chose.
Alors vous travaillez aussi à Ygren sur d'autres questions, notamment liées à l'alimentation saine et durable. C'est un enjeu de société majeur, à la fois pour être en meilleure santé, mais c'est aussi une façon justement peut-être via l'alimentation de parler à tout le monde. C'est quelque chose qui intéresse toutes les cultures depuis la nuit des temps.
C'est une entrée très facile, l'alimentation. Parce qu'en fait, le repas est partout dans le monde, ou pratiquement partout, un moment hyper symbolique dans les cultures. Et du coup, à travers le repas, forcément, il y a une grosse représentation culturelle. Il y a une grosse représentation de... En tout cas, on travaille beaucoup sur l'alimentation, comment je me nourris, du coup, comment je fais attention à moi. Souvent, le repas, c'est aussi un symbole de partage. Il y a quand même beaucoup de gens qui partagent leur repas avec d'autres. Enfin, c'est vraiment symbolique et on peut vraiment travailler beaucoup là-dessus. Et du coup, l'alimentation saine et durable, pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est aussi un moyen de travailler sur le local, la relocalisation de nos productions, la réflexion des impacts qu'ont la production de nos aliments. Et du coup, on peut très rapidement arriver sur les problématiques sanitaires. Et du coup, tout le monde est sensible à sa santé ou à celle de ses proches. Du coup, on arrive à travers une question comme l'alimentation à avoir vraiment une représentation de notre monde très efficace. L'alimentation est un cœur de la compréhension de la complexité. En fait, quand on traite l'alimentation, on peut traiter toutes les problématiques sociétales. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse. Nous, en fait, dans le fond, en fait, peu importe la problématique. On pourrait parler de l'alimentation, on peut parler des réfugiés, on peut parler de ce qu'on veut. L'important, c'est de faire comprendre que le monde est complexe. C'est parce qu'on aura accepté que le monde est complexe qu'on acceptera alors de trouver des réponses qui ne sont pas parfaites. Aujourd'hui, si vous entendez n'importe quel débat, en fait, il y a toujours des pour et des contre. En fait, ce n'est pas possible d'être si simple et d'être si basique. En fait, le monde est complexe et il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. L'important, c'est de faire un choix en conscience et d'essayer d'être le plus responsable et solidaire dans cette dynamique. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution idéale. De toute façon, le monde évolue. De toute façon, il y aura des problématiques. Qu'est-ce qui nous paraît le plus solidaire et responsable ? Et chaque être humain doit être en capacité de faire ce choix éclairé. Être en capacité, ça veut dire déjà être en capacité de comprendre pourquoi je fais le choix, mais aussi d'avoir la liberté de choisir. Et la liberté, on sait qu'elle peut se représenter sur énormément de choses. Mais voilà, c'est hyper important pour nous de passer par là. Et nous, on dit, une fois qu'on a compris que le monde est complexe, alors c'est le début de la coopération, c'est le début du vivre ensemble. J'ai accepté que le monde est complexe, du coup j'ai accepté de ne pas avoir toutes les solutions. Du coup je sais que je dois faire avec les autres et faire pour les autres. Et du coup là se crée la coopération et après on y va, on enchaîne et on crée du vivre ensemble à partir de là.
Quelle que soit la thématique, vous abordez aussi les questions de dérèglement climatique, de citoyenneté. Finalement, ce sont des supports pour... alors, vous travaillez sur la pédagogie, mais finalement, sur changer les représentations, ouvrir les mentalités au fait qu'on n'a pas tout seul la bonne solution et que se confronter aux autres nous permet de mieux vivre ensemble plutôt que de se refermer sur ses propres idées. Finalement, vous êtes des pacifistes.
Des pacifistes, des humanistes. Ce qu'un animateur a dit l'autre fois et que je trouvais magique, il a dit en fait, je sais pas trop ce qu'on fait chez Ygraine, mais je crois qu'on réveille l'humanité qu'en chacun de nous, quoi. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est d'ouvrir ces espaces de dialogue pour que chacun puisse ouvrir son humanité et son humanité aller dans sa faiblesse et aller dans sa force. Et voilà, et en fait, une fois qu'on aura tous accepter d'être humble et de savoir qu'on a des faiblesses, alors on arrivera à avoir aussi les forces chez les autres et trouver la complémentarité. Voilà. Et du coup, en fait, comme vous le disiez à l'instant, en fait, le sujet, c'est un support. Notre objectif, c'est comment on fait ensemble. Et du coup, bah, on va le chercher sur une thématique, mais demain, on peut la chercher sur une autre, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est de faire ensemble.
Alors, est-ce que vous avez un point de vue critique par rapport à l'éducation nationale, par rapport à ça ? Parce qu'on se souvient tous d'avoir été à l'école et d'avoir jeté ses cahiers en fin d'année en disant « ça y est, c'est bon, j'ai eu mes bonnes notes au contrôle et je peux tout oublier ». Et puis de jamais faire le lien entre la géographie et l'histoire, par exemple, ou les mathématiques et le français, ou enfin, de tout séparer comme ça. D'avoir une relation personnelle avec chaque professeur et donc un lien avec chaque matière différente, alors que tout est lié. Est-ce qu'il y a quand même des évolutions positives récemment? Là, on parle de projets transdisciplinaires. Il y a quand même une prise de conscience qu'il faut changer ça et justement permettre aux élèves, non plus d'être de bons petits soldats qui apprennent par cœur, mais d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes.
Bon, moi, avant toute chose, je tiens à féliciter les enseignants. Voilà, je pense que on les sous-estime tous les jours. Passez une journée avec 30 gamins dans une classe et vous comprendrez que c'est un métier magnifique. Voilà. Et avant toute chose, on peut porter des critiques sur l'institution, on peut porter des critiques sur plein de choses et j'aimerais pouvoir encore plus participer à l'évolution du cadre éducatif. Mais avant toute chose, il faut respecter ce travail qui est juste incroyable. Moi, tous les matins, je amène mes enfants à l'école et je confie ce qui m'est le plus cher à quelqu'un qui va les garder et qui va les accompagner. Et du coup, je suis admiratif que cette personne accompagne mon enfant toute la journée et lui donne tout ce qu'elle peut, en fait. Après, c'est vraiment ce qu'elle peut. Après, si on passait cette première étape de valorisation des enseignants, effectivement, on peut se poser la question de quel est le référentiel qui est amené à nos enfants. Moi, je suis dyslexique. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai participé à la création de ça. C'est qu'en fait, quand une personne est dyslexique, forcément, le cadre de l'institution n'est pas le plus adapté, quoi. On est forcément différent. Du coup, au début, ça marche plutôt bien. Mais en fait, plus on monte dans les classes et plus en fait, la partie écriture rédactionnelle est importante. Et du coup, moi, j'ai failli pas avoir mon bac. J'ai pas eu de diplôme universitaire parce qu'en fait, à chaque fois, on m'a dit « mais en fait, c'est pas possible, on peut pas vous relire ». Voilà, et du coup, vous pouvez imaginer toute la discrimination qui va derrière. Vous êtes bon à rien, vous savez rien faire. Puis après, toutes les critiques faciles qu'on peut subir. Heureusement, moi, j'ai eu la chance de m'épanouir grâce à l'éducation populaire. J'ai eu la chance de m'épanouir grâce au sport et j'ai réussi à sortir et à comprendre qu'en fait, d'autres référentiels étaient possibles. Et du coup, voilà. Mais ça, c'est la chance d'un enfant sur beaucoup, quoi. Voilà. Et du coup, c'est ce qui m'a fait, je pense, créer cette structure qui nous a accompagnés, qui accompagne en tout cas ma motivation au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, vraiment, moi, ça me fait réfléchir à se dire, OK, notre école, pendant longtemps, elle a servi à produire, ou en tout cas à accompagner des jeunes à pouvoir être utiles pour un système sociétal qui est lié à la productivité, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les politiques internationales, si on regarde les grands choix politiques, en fait, notre objectif n'est plus de viser la productivité, mais la résilience. Du coup, il faut que notre école, elle apprenne à aller vers la résilience. Mais ça, c'est très difficile à faire entendre. C'est très difficile à faire entendre parce que, en fait, casser un référentiel, que quand vous avez travaillé pendant 40 ans avec un référentiel et qu'en fait, d'un jour au lendemain, on vous dit, en fait, vous êtes planté, et surtout que vous ne le faisiez pas de façon volontaire, ça demande une remise en question énorme. Et du coup, certains sont prêts, et ce qu'on appelle l'accompagnement, et là, on peut passer sur une phase d'accompagnement au changement, et d'autres, par peur, par manque de volonté, par plein de choses, peuvent se dire non mais moi en fait je crois pas vraiment dans cette idéologie et du coup je préfère croire que c'est pas vrai. C'est tous les problèmes des climato-sceptiques ou des choses comme ça, c'est qu'en fait je préfère ignorer les faits plutôt que rentrer dans la peur ou voilà. Voilà, moi je pense qu'en fait il faut être réaliste. Voilà, aujourd'hui on a des politiques internationales qui l'écrivent partout, qui disent bon ben voilà, en fait il faut qu'on rentre dans une phase pour la France de résilience. Et ben du coup créons l'éducation de demain, créons cette éducation qui va nous permettre d'être agile et de pouvoir agir quel que soit ce qui va se passer demain. Et du coup je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup d'inspecteurs qui travaillent dans cette dynamique-là. Moi, j'ai la chance d'en rencontrer, en tout cas. Voilà. Et encore une fois, je suis admiratif parce que c'est de plus en plus la ligne majoritaire. Et du coup, c'est super. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une lourdeur qui fait que bah, c'est un vrai combat pour eux en interne d'essayer de faire changer ce référentiel. Et du coup, ils y arrivent petit à petit. On le voit chaque année, à chaque fois que les programmes scolaires sont réévalués ou en fait qu'on voit que le socle de connaissances et de compétences de l'éducation nationale évolue, on voit rentrer de plus en plus la problématique, les projets transdisciplinaires et ces choses-là. Et du coup... c'est des petites victoires, voilà. Mais ces petites victoires, moi je l'espère, elles vont dans le bon sens. Alors, voilà, les valeurs d'IGREN, c'est l'utopie, c'est l'optimisme, c'est l'innovation et c'est le fait de. Voilà, c'est des valeurs qu'on porte intrinsèquement, qui sont très difficiles à tenir au quotidien, hein, parce qu'on ne va pas vous cacher que nos conditions de travail ne sont pas tous les jours au top, mais voilà, en fait, on y croit, quoi. On y croit et on fait tout pour que ça avance. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui essayent. Moi qui travaille sur ces sujets depuis 20 ans et qui suis un des cofondateurs de ce mouvement qui travaille depuis 13 ans, il y a 13 ans, on nous prenait vraiment pour des grands fous. Aujourd'hui, on nous dit, finalement, vous êtes la norme, quoi. Et si on peut devenir la norme, c'est super, on aura vraiment bien avancé.
Alors comment on peut vous aider à transformer les mentalités et cultiver cette envie d'agir pour un monde solidaire et responsable? On peut rejoindre donc vos associations régionales IGREN ou vos structures cœur de réseau en devenant adhérent, bénévole?
Alors bien sûr, déjà on a besoin de tous. Du coup, si vous voulez nous rejoindre, ça peut passer par plein de choses. La première chose, c'est de suivre notre actualité sur les différents réseaux sociaux pour relayer, parce que c'est la première chose, hein, c'est qu'on doit monter en notoriété pour pouvoir faire passer nos messages, c'est la première phase. Ensuite, si vous êtes convaincu par notre message qu'il faut une autre éducation pour un autre monde, s'il vous plaît, adhérez. Adhérez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi aussi j'y crois et je le symbolise par un acte réel qui est, je prends une adhésion dans cette association-là. Cet acte symbolique va vous ouvrir un droit à la gouvernance, un droit de participer au choix de nos structures. Du coup, venez, on a besoin de vous pour que vous participiez. Et puis, si vous avez en plus un peu de temps, vous pouvez devenir bénévole. Si vous avez beaucoup de temps ou beaucoup d'envie et que vous croyez vraiment dans notre projet associatif, vous pouvez devenir bénévole dirigeant. Et nous, on vous accompagnera sur tout le long. On a des formations, on a un processus qui vous permettra, on l'espère, de vous épanouir avec nous, déjà de nous connaître et de plus petit à petit de s'épanouir avec nous. En tout cas, ce qu'on peut vous garantir, c'est que si vous avez envie, on essayera de faire que vous puissiez participer au maximum. Et surtout, on sait qu'on n'est pas assez nombreux, on sait qu'on a besoin de tout le monde et qu'il n'y a pas de petit acte. Du coup, ça peut aller d'un tout petit don jusqu'à des sommes importantes ou d'une petite heure jusqu'à beaucoup d'investissements, il n'y aura pas de jugement. Voilà, venez comme vous êtes et surtout, si vous y croyez, venez, on n'est pas assez nombreux et les sujets qui sont devant nous, ils sont nombreux, quoi.
Donc depuis 13 ans que vous existez, IGREN, donc ça s'écrit E-GREN, vous avez quand même aujourd'hui 45 salariés à travers la France et l'objectif c'est bien de créer des emplois. Donc c'est un appel qu'on lance à des structures qui seraient intéressées sur les territoires de créer peut-être une nouvelle antenne pour promouvoir une autre éducation plus solidaire et responsable à travers la France. Merci Julien Mast et puis bonne continuation.
Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.